beaucoup de choses qu'on nous présente comme étant des solutions écologiques sont en réalité de la crasse. Et on espère encourager tout le monde à faire mieux que ça, dans la bonne humeur, la joie et parfois dans l'horreur la plus totale.
Et c'est alléchant, c'est une de mes émissions préférées sur Radio Campus. Allez, ça y est, je vous dis tout, c'est comme ça. Vous existez depuis quand? Vous faites de la radio depuis quand à Radio Campus?
C'est notre quatrième saison, là. On est en train de finir la quatrième saison. La première était, on faisait juste des petites séquences de 5 minutes. Qu'on rédigeait des petits scénarios de 5 minutes, et puis après, les événements sont bousculés, le Covid, tout ça, on a pris un créneau complet.
Complet, une heure.
Et voilà, maintenant on est trois, on fait des chroniques, on dit du mal.
Et on rigole et un
on
peu.
On écoute de la musique, quand même, de la bonne musique.
On écoute de la bonne musique, ouais.
Est-ce que vous écoutez Radio Campus, vous
oui.
Les animateurs des minutes?
Oui.
Et qu'est-ce que vous écoutez à Radio Campus alors?
Alors, qu'est-ce qu'on écoute à Radio Campus? Alors, les émissions politiques, alors c'est la question plutôt c'est sur lesquelles j'arrive à tomber. On passe au rouge une fois de temps en temps, j'arrive à tomber dessus.
Ah
ouais, je sais bien. La voix 100 mètres, ça m'arrive aussi de tomber dessus, c'est un bon créneau pour moi. Il y en a une troisième, zut, pourquoi
c'est
je ne la retrouve plus
Ah, c'est l'heure de le mettre peut-être.
C'est l'heure de le mettre, ah oui.
Évidemment, l'incontournable heure de le mettre. Du mercredi 18h30.
Exactement, c'est ça. C'était l'heure d'aller chercher la pizza, c'était pour ça. Et puis quelques émissions de musique que j'aime bien aussi. L'émission d'Eric Eismelrat.
Fais pas le faillot comme non plus. Hein.
Ouais, mais.
Tout ça parce que c'est le président. Alors, de toute façon, vous êtes viré la semaine prochaine. Hein. Je vous le dis direct.
je vais même faire de l'aller jusqu'au bout. Il m'est arrivé d'acheter des CD après avoir écouté des trucs dans son émission.
Wow, alors là, c'est le top du top. Allez, chauffe par scène, Man of Action et Environnement.
Chers auditeurs de Radio Campus, chères bradereuses, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est avec un immense plaisir que nous allons mener cette émission des minutes de la fin du monde en direct de la braderie de Lille, le centre du monde, en ce premier week-end de septembre. Alors on va pas se mentir, c'est la rentrée, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais que voulez-vous? Faut bien produire pour alimenter la bête de ce monde capitaliste stupide. Alors on y retourne, sauf pour ceux qui sont jamais partis évidemment. Les minutes de la fin du monde, on l'a invoqué dans l'introduction, c'est une émission dans laquelle nous tentons à trois de démasquer la destruction des corps, des âmes et du vivant de façon générale par ce monde qui tente de se repeindre en vert, mais avec de la peinture acrylique, des solvants issus de la pétrochimie et une belle bourgeoisie verte. Et dans les minutes de la fin du monde, il y a Amina. Bonjour Amina, comment
bonjour,
ça va?
Bonjour, ça va bien, ça va, ça va.
Et dans les minutes de la fin du monde, il y a Arnaud. Bonjour Arnaud.
Salut Alexandre.
Comment ça va?
Ça va très bien Alexandre.
Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui Arnaud?
Tu verras.
Ok, surprise. Et dans les minutes de la fin du monde, il y a souvent des invités aussi. Alors, deux invités pour l'instant. Nous avons donc Valentin des Soulèvements de la Terre. Bonjour Valentin.
Salut.
Bravo Valentin. Ouais.
Et Domiti qui vient de se faire pirater
ouais.
De l'association MU.
Ah, bonjour.
Bonjour Domiti. Eh ben, c'est parti.
Les minutes de la fin du monde.
Non, mais c'est bon, il y a des entreprises qui ont des solutions dans les cartons.
De toute façon, je vais te dire, l'humanité s'en est toujours sortie.
On est hyper moteur sur le développement durable.
Les minutes de la fin du monde.
Alors notre tradition dans l'émission, c'est de faire un journal de midi 12. Or ça tombe bien, il est pratiquement midi 12.
Trop bien. Hey, c'est la première fois que ça arrive.
Ouais.
Ouais. Alors, on est un peu en avance, mais on va dire, on va faire le jeu du gouvernement pour se lancer. Je vais dire, il est midi 12. Vous allez me dire.
Non.
Non, il est midi 5.
49-3. Il est midi 12. Allez, c'est parti.
D'ailleurs, je me demande l'heure qu'il est.
Et midi 12.
Ne me dis pas que tu as encore faim.
Ah ben pourquoi j'aurais pas faim? À midi 12, j'ai toujours faim. Puis je mangerai n'importe quoi. Tu m'entends? N'importe quoi.
Allez, c'est parti. On va se manger un journal de midi 12 dans les minutes de la fin du monde. Alors, on va tenter de faire un journal un peu différent de d'habitude parce qu'on est en direct, qu'on a des invités, qu'il y a une foule impressionnante à la braderie.
Ouais.
Merci. C'est un journal slash jeu de midi 12. J'ai répliqué des nouvelles fraîches et des histoires qu'on a racontées cette année aussi dans les minutes. Je vais vous les raconter. Vous votez si c'est vrai ou c'est si du pipeau inventé de toutes pièces par l'un de nos cerveaux en ébullition.
Ouais.
Il y aura quelques questions au passage. Bon, c'est parti. Vous connaissez les Hummers?
Oui, Alexandre.
Ces immenses voitures américaines, principalement des pick-up ou des 4x4, que quand vous les voyez, vous vous sentez instinctivement en danger.
Oui, très bien.
Je confirme.
Alors, il existe maintenant un Hummer SUV électrique pour faire la transition écologique. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Vous l'avez vu passer? Ouais, c'est une info. Bon, alors, on va aller un peu plus loin parce que je sens que vous êtes en forme. Combien de chevaux sous le capot du Hummer électrique?
Oula. Trop. 130.
J'ai 130 à ma droite.
Plus.
Bon, ouais, sur 50, allez, je
vais. Au moins 180 ou 200.
830 chevaux pour le SUV et 1000 chevaux pour le pick-up. C'est écologique, le cheval.
Oui, combien de temps pour charger?
Ah, ça, j'ai pas vu le temps de charge. Mais non, mais il y a des charges hyper rapides, il y a marqué. Le Hummer SUV, il peut passer de 0 à 100 km/h en combien de temps?
C'est un gros truc, 8 secondes.
Ouais.
3,5 secondes. Mais c'est bon, il est électrique, tout va bien.
C'est de l'ingénierie, tout va bien.
D'ailleurs, question stupide qui va avec. Combien de moteurs dans le Hummer SUV?
3.
3 moteurs, Arnaud, tu l'avais vu passer ou tu as instinctivement?
Non, mais en fait, ils ont sorti une nouvelle Tesla avec 3 moteurs dedans, donc je me suis dit, ça doit être pareil.
Mais exactement, je pense qu'il y a une volonté de copier Tesla derrière. Hein. Alors, il est écologique, le Hummer, il n'y a que 2 écrans tactiles géants.
Oh,
de la taille d'un ordinateur portable, et c'est l'ordinateur qui peut piloter sur des routes préenregistrées, figurez-vous.
Trop
si jamais ça vous manquait.
Ouais.
Oui, ah oui, il y a 200 000 km de routes préenregistrées dans l'ordinateur.
Okay.
Il me reste une question subsidiaire sur le Hummer SUV. De combien de caméras est équipé ce monstre?
Allez, 30.
C'est beaucoup 30 quand même.
Devant, derrière.
Je mise toujours plus haut, 35.
Valentin, 35 plus haut.
9. J'aurais dit 10 moi.
Ouais, 10.
Bon, en moyenne on est pas mal. C'est suivant les modèles entre 14 et 17 caméras.
Ouais, quand même, la moyenne.
Suivant si c'est le modèle Surround Vision ou Ultra Vision. Dont une caméra, ça m'a beaucoup amusé, sous la voiture. Bah, c'est un Hummer, tu sais, tu vas dans le...
Bah si, c'est pour voir les rochers, si tu passes sur un rocher, pour voir si tu passes ou pas.
Une fois que t'es coincé sur un rocher,
ça sert pas à grand chose.
Ou alors c'est pour détecter le migrant qui est en dessous,
ouais,
peut-être.
Voilà,
c'est peut-être ça.
Le migrant.
C'est évident, Alexandre.
Des mesures quand tu nous tiens. Mais bon, c'est bon, il est électrique.
Ah.
Deuxième sujet, on l'a évoqué pendant l'année et on va aller un peu plus loin. La compagnie aérienne Twinjet a ouvert une ligne aérienne Lyon-Lille, vrai ou faux?
Oui, moi je dirais oui.
Ouais, c'est vrai.
J'ai vu passer un truc similaire.
Mais il n'y a pas une loi qui est sortie normalement restreignant les... Non.
Ah, ils avaient...
Non,
ils avaient...
Non, en fait... Ah non, en fait, c'est un fait.
49-3.
Ils avaient essayé effectivement une Lille Lyon-Lille, un trajet d'1h30 dans un petit avion,
ouais.
Alors que ces gros nullos de TGV font le trajet en 3h, quoi. Voilà, il y a un TGV qui vous amène de Lille à Lyon en 3h et réciproquement, centre-ville à centre-ville, pour un tarif moyen d'une cinquantaine d'euros d'après SNCF Connect, là. Twinjet vous permet de faire le trajet en 1h30, plus le temps d'attente à l'aéroport.
Là, 2h.
Les 2h, les transferts, un prix moyen de...
De 20 euros.
Bah non, c'est au moins 200 balles.
Non, c'est moins.
Ouais, alors le prix d'appel est à 90 balles.
Ah,
non.
D'accord.
Si. Et ça monte jusqu'à... J'ai regardé pour la semaine prochaine.
Ah.
La semaine prochaine, vous pouvez aller à Lyon pour seulement 350 euros.
Ouais, c'est ça.
C'est pas mal. Histoire d'enfoncer un peu le clou, parce que quand le greenwashing nous tient, on en profite un peu. Probablement dans l'idée de désenclaver les territoires. Vous avez vu que je maîtrise le vocabulaire
c'est beau.
TwinJet exploite depuis quelque temps une ligne Le Puy-en-Velay Paris-Orly. Bon, ça sent la grosse galère, mais là, c'est aussi galère en train. Mais pour désenclaver le territoire de façon écologiquement responsable, que propose la compagnie aérienne TwinJet? Vous avez des tentatives?
Le Puy-en-Velay-Lyon.
Ah, alors le Puy-en-Velay-Lyon, ils ont fait... c'était pas le Puy-en-Velay-Lyon, ils ont fait un Le Puy-en-Velay... Je sais plus, un autre patelin du coin, via Paris.
Île Paris?
Ouais. Mais c'était une erreur du logiciel, ils n'avaient pas paramétré.
Et l'île Paris, sinon?
L'île Paris, non. Alors non, on est toujours sur le Puy-en-Velay-Lyon.
Ah, toujours, ok.
C'est vraiment la question, comment est-ce qu'on peut désenclaver du territoire?
En mettant, je sais pas...
En mettant un avion par mois?
Ah non, non, c'est plus fréquent quand même.
Ah oui, d'accord.
Non, non, non.
Bah, je sais pas.
Non, alors en mettant des navettes pour rejoindre les aéroports du Puy-en-Velay depuis et Lyon, depuis Mende et Saint-Etienne. Alors depuis Mende, je connais pas, mais depuis Saint-Etienne qui est desservi par un TGV direct depuis Paris, je dois dire que faire une navette Saint-Etienne, le Puy-en-Velay,
pour aller prendre l'avion.
Le Puy-en-Velay Orly en avion, il faut quand même la vouloir.
Et t'as regardé le temps que ça prend ou pas?
Alors j'ai pas vu le temps que ça prenait. Petit bonus, mais vous l'aviez déjà deviné, j'en suis sûr, les navettes sont...
Payante,
évidemment. Mais...
Électrique. Ah, pardon, excuse-moi, Alexandre, excuse-moi.
Électrique, c'est écolo. Le site parle d'ailleurs de, je cite, van 100% électrique, premium.
Et ils n'ont pas parlé de plantation d'arbres pour compenser les émissions, non?
Attends. Ça vous... Et donc le transfert vous coûtera qu'une quarantaine d'euros en plus. Mais bon, on n'est plus à ça près.
Et ça se trouve, c'est moins cher que le TGV.
Vous en voulez encore un peu?
Oui.
Allez, on va passer dans le vomitif direct, plus efficace que deux doigts au fond de la gorge. Vous allez pouvoir vous acheter.
On est en direct.
Vous allez pouvoir vous acheter une conscience encore supérieure en prenant l'avion pour faire 400 bornes. Non, l'avion n'est pas électrique. Non, il n'arrêtera pas la guerre en Ukraine. Qu'a pu bien inventer TwinJet pour sauver les clients de leur mal-être à prendre l'avion?
On va planter des arbres.
Bah, c'est ce que je dis, compenser. Alors, les
compensation carbone, planter des arbres. D'autres idées?
Faire un don à une association, un truc
faire
comme ça.
Faire un don à une association,
mais pas mal. L'association, mais quel type d'association?
Ouais.
Je pense que... Le WWF ou un truc comme ça. Une grosse asso. Que...
Ah, il faut être encore
plus...
La
fondation de tête. Ah, non,
pardon. Ouais. C'est ça.
Belle tentative.
À Greenpeace.
Je vous présente l'opération un billet d'avion égale deux repas pour un enfant.
Oh,
c'est génial.
J'ose même plus commenter tellement c'est gros, ça y est, c'est bon, on a nourri un enfant.
Mais, ils vont bien manger pour 90 balles quand même.
Ah oui, c'est clair.
C'est le prix d'appel, 90 balles.
Ah oui, c'est vrai, en plus, putain, 300 balles, ils ont un dessert.
Un restaurant gastronomique.
Pour la deuxième partie du journal, je vous propose des infos intox en ultra rapide. Enfin, moi, je l'ai fait ultra rapide, c'est... Ouais, non, je sais, je vais encore blablater, bon. Vous me répondez simplement info si vous pensez que c'est un produit commercialisé, intox si vous pensez que ça sort de mon cerveau, ou délire si vous pensez que c'est un concept qui se trouve sur internet mais qui n'est pas encore commercialisé. Ouais. Ou en fait vous intervenez, vous racontez ce que vous voulez.
Ok.
C'est parti.
Alors, le poulailler connecté avec panneaux solaires, caméra de détection d'œufs.
Ça existe,
une connexion d'œufs.
Info. Ouais. Info.
Effectivement, c'est une info. Il existe réellement sur internet des poulaillers connectés, panneaux solaires, caméra de détection d'œufs et évidemment une connexion web pour vous prévenir quand il y a un œuf qui arrive.
Et oui, j'allais dire, il n'y a pas de capteur sur la poule pour voir quand l'œuf sort.
Non, il n'y a pas de capteur sur la poule. Le vélo électrique à moteur Ferrari.
Ça existe.
Je dirais sur internet, mais.
Ah, délire
pas de...
peut-être.
C'est pas délire, ouais, délire.
Non, Tox, c'était un moteur Porsche.
Ah,
je vous ai eu.
C'est pas le même standing.
C'est pas le même standing, je sais pas, ouais. Non, effectivement, le vélo électrique moteur Porsche, ça a été commercialisé, c'est en cours de commercialisation. Les parlementaires de l'État du Wyoming, au nord des États-Unis, ont mis en place un projet de loi qui vise à faire disparaître les véhicules électriques des showrooms et des parcs d'exposition, avec en vue l'interdiction de la vente de véhicules électriques dans l'État en 2035.
C'est vrai.
Info. Oh, info.
C'est vrai, oui, ça.
Parce que l'électrique, ça pollue.
Alors, info, effectivement, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est pas parce que l'électrique, ça pollue.
C'est parce qu'ils ont trop de pétrole.
Oui, ils adorent le diesel ou les trucs comme ça, l'essence.
État producteur de pétrole.
Ah oui,
c'est vrai. Non.
Ouais.
C'est pas bon pour l'économie, en fait.
Pour protéger l'industrie pétrolière et gazière de l'État, Ils veulent interdire les véhicules électriques.
On alors, est pas mal.
Et ça fait du plastique et donc du pétrole dans les voitures électriques
ouais,
ou
non,
ça rentre pas en compte.
Non. Non, parce que c'est des pétroles lourds plutôt par là, donc ça les concerne
et
moins.
Et ils s'en foutent de polluer pour la suite.
Alors ensuite, alors un peu plus complexe celle-là, la technologie Vehicle to Grid, qui consiste à alimenter le réseau électrique à partir des batteries des voitures branchées sur le réseau pour se charger.
Oui, info, je crois que je l'ai vu. Non,
c'est tellement compliqué que ça peut être que de l'info, j'ai pas compris.
Ouais.
C'est quoi?
Ou tu peux répéter?
La technologie Vehicle to Grid, qui consiste à alimenter le réseau électrique à partir des batteries des voitures qui étaient chargées, qu'on rebranche.
Oui, parce qu'il reste
pour les charger, sauf que l'intelligence artificielle décide de plutôt ponctionner l'énergie sur la batterie de la bagnole pour alimenter le réseau, parce qu'il y a plus besoin sur le réseau que dans la voiture.
Pour moi, bah oui, c'est une info, j'ai vu un truc similaire en disant qu'il reste de l'énergie.
Et j'espère bien que pour toi c'est de l'info, on en a parlé il y a 3 mois.
Ah oui, Amina, elle s'en rappelle plus. On en a fait une émission.
Alors l'idée qui est derrière, faut essayer de comprendre, c'est qu'au lieu de produire des millions de batteries pour les voitures et pour les maisons, on se contenterait de produire des batteries pour les bagnoles, qu'on produira de toute façon parce qu'on est dans une société qui produit des bagnoles et qui ne sait pas faire autre chose. Et donc l'intelligence artificielle déterminerait si ta bagnole doit charger ou décharger quand tu la branches, suivant l'appel qu'il y a sur le réseau ou pas. Et si jamais toi, tu as besoin de ta bagnole de façon imprévue et que l'intelligence artificielle a décidé de ponctionner...
Voilà. Après, dans un monde parfait, c'est pas con. Moi, c'est con si tu en as besoin à ce moment-là, mais dans un monde parfait, c'est pas con. Mais on n'est pas dans un monde parfait.
Non, mais c'est un coup à vendre 2 jeux de batterie. Un pour au cas où et un pour charger la batterie de la batterie qui charge
du coup,
batteries.
On va refaire une batterie pour la maison.
Non, mais... Ça, c'est une idée géniale.
T'as vu ça?
Merci, on va... l'utile, on a bien fait de la vitesse.
On va économiser des batteries pour en reproduire par derrière.
Pour avoir des doubles.
Je vois que t'as une idée géniale. Oui. Alors, une petite dernière. Des tomates cultivées sous serre chauffée en plein hiver peuvent être labellisées bio en France.
Vrai ou faux?
Oui,
c'est
vrai. Oui, ça a fait un scandale.
Ouais, tout à fait. La FNSE a argumenté que de toute façon, ils vendaient déjà ces tomates en non bio. Alors, c'est bon. Ça passe.
Ouais, ça passe. Un petit logo bio.
Ça permettra juste de les vendre un peu plus cher.
Ouais, tout à fait.
Bon, voilà, c'était la fin de ce petit journal. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de continuer l'émission avec nos invités. Valentin.
Rebonjour.
Des soulèvements de la terre. Comme je suis d'humeur particulièrement joyeuse et qu'il y a du monde devant nous, je vous propose une chanson du groupe Headsticks qui s'intitule sobrement What Do You Want. Alors, le principe est très simple. Je vous dis ça pour vous à la maison, dans la voiture, vous montez le son. Pour ceux qui sont porte de Paris, vous montez le son aussi. Quand le chanteur dit What Do You Want, vous répondez bien fort Revolution. Et quand il dit When Do You Want It, vous répondez Now! C'est parti!
Excellent! C'est très bon! What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? Well, I got some tickets for the weekend's game. The boys in red and white. It's the third round of the FA Cup. And if I missed it, well, it wouldn't seem right. We can meet up in the town tonight. Treat the world to right. We can raise the glass to liberty. The glory of the fight. What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? Well, I promised a wife a quiet night in, swore that I wouldn't be late. The pictures of a Chinese takeaway, she's warming up the plates. Coronation Street, it's on the box, followed by Anton Deck. A quiet night in with a glass of red, take a revolutionary red check. What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? Well, Monday comes and Monday goes, Tuesday passes by. Wednesday's for the Champions League on ITV and Sky. Thursday, we're nearly there, the weekend's nearly here. Friday, time to celebrate with a curry and a beer. Saturday comes, the Reds are playing away.
quality time, but with a trouble and strife, a romantic night away. Sunday is the day of rest for this here working man. Rest and recuperation, he's got a revolution that he's got a plan. What do you want? I want a cool TV, one of those with a new curved screen, an upgrade for your mobile phone, a pair of designer jeans. What do you want? I want to live in peace when all is said and done. I want a weekend in a spa hotel. Holiday in the sun, the sun. A holiday in the sun, the sun. Holiday in the sun. What do you want? When do you want it? What do you want? When do you want it? Well, what do you want? When do you want it? What do you want? We can all just live, all just live in.
On reprend le cours normal des minutes de la fin du monde. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille, 106.6 FM, sur Internet, sur le DAB+. J'ai oublié quelque chose ? Et ici, en direct, à la Porte de Paris, à la braderie. En plus, c'est la ligne d'après. Pour reprendre le cours normal, je vous propose une dernière info intox pour embrayer sur la suite de l'émission. Mais vous commencez à comprendre le jeu, hein, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement d'intox. La citation suivante, portant sur le convoi de l'eau initié par les soulèvements de la Terre, est-elle vraie ? Quelqu'un a-t-il osé tenir des propos aussi stupides ? Je cite « Les paysans qui les accompagnent sont indignes de porter ce nom. Ce ne sont que des idéologues qui sont incapables d'appliquer ce qu'ils théorisent, n'ayant qu'un poil dans la main, et des exploitations qui ne survivent que par perfusion d'aides publiques en tout genre, car non viables économiquement, car ne produisant à peu près rien. » Info ou intox ?
Je dirais info.
Info.
Effectivement, quelqu'un est allé dire ça. Il s'agit du lobbyiste Jean-Baptiste Moreau, ancien député et toujours membre de... Quel parti ?
République En Marche.
Mais comme t'es fort !
J'ai vu, c'est marqué sur ta feuille.
Ah,
ah pardon, excuse-moi Alexandre.
Ce qu'on voit, c'est le convoi de l'eau, c'est l'histoire de la pression gouvernementale sur les activistes, en partie sur les activistes écologistes, mais en pratique sur toutes les personnes qui menacent des intérêts privés, et en très particulier sur toutes les personnes qui tentent de lier les luttes. Alors pour parler du convoi de l'eau, des soulèvements de la terre, de la convergence des luttes, nous avons à table, sur la petite table du stand de Radio Campus à la braderie, Valentin, des soulèvements de la terre, du comité local. Bonjour.
Salut.
Ça y est, c'est le moment.
C'est parti.
Peux-tu te présenter, s'il te plaît ?
Eh ben, je m'appelle Valentin. Du coup, je suis du comité local des soulèvements de la terre, un des militants et militantes.
D'accord. Comment ça fonctionne au comité, au soulèvement de la terre ?
Au soulèvement de la terre, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoute, en fait, c'est un courant de pensée, un groupement qui lie, comme tu l'as dit, plusieurs structures, mais également des personnes, des militants de toutes origines. Donc, par rapport aux différentes structures, il y a des associations, par exemple Extinction Rebellion, il y a également des syndicats, la CGT, ou des partis également, Europe Écologie, voilà. Vraiment une pluralité de structures et de personnes qui se rassemblent autour d'un courant de pensée. C'est important de le dire quand même, parce que juste pour le rappeler, il y a eu l'arrêté visant la dissolution et qui nous identifiait comme un groupement de faits, ce qui a été contredit par le Conseil d'État.
D'accord, donc c'était sur ça que portait la décision du Conseil d'État. C'était sur le fait qu'il n'y a rien à dissoudre.
C'est ça, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que le Conseil d'État a quand même dit également que les violences qui ont été nommées par l'arrêté, dit que c'était des violences qui n'étaient pas dues au soulèvement de la terre. C'est-à-dire que en fait, c'était des participants des manifestations qui étaient libres de leurs actes. Juste pour comparer. C'est par exemple avec les manifestations de la réforme des retraites. Il y a eu parfois des violences, mais ça n'engageait pas tout le monde. On n'a pas cherché à dissoudre la CGT parce qu'il y a eu des violences à côté. Enfin, voilà.
Je donne pas des idées comme ça.
On ne sait jamais par les temps qui courent.
En effet. Et alors, donc là, on parle des violences qui ont pu avoir lieu, je pense, au moment de l'affaire des bassines de Sainte-Soline. Tu peux resituer en une minute ce qui s'est passé ? Parce que moi, j'ai rencontré quelques personnes après coup qui avaient l'air assez traumatisées par ce qu'ils ont vécu.
En effet, il y a eu des post-traumatiques. Hein. Clairement, ce qu'ils ont vécu était hyper traumatisant. Ça a été une réponse violente de la part de l'État en mettant plein de gendarmes, alors qu'ils tiraient visiblement, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était une grenade par minute ou quelque chose comme ça. Donc ça pétait de partout. C'est donc pour le contexte, c'est en fait ce rassemblement a eu lieu contre les méga-bassines. C'est un combat qui dure depuis plusieurs années. Les méga-bassines, c'est la réponse de l'industrie, de l'agriculture industrielle, en fait, au manque d'eau. On est, pour situer géographiquement, les mégabassines se situent autour du marais Poitevin. Donc là, on est dans une zone qui commence à souffrir de sécheresse de plus en plus. Bien sûr, ce n'est pas la seule en France. Et donc, la réponse à ça, c'est aidé par l'État, par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et avec en main dans la main avec la FNSEA, c'est de créer des grandes réserves d'eau, des grands trous avec des bâches qui sont totalement stériles, et les utiliser, en fait, les remplir en pompant l'eau de la nappe et l'eau également qui vient de l'infiltration, et du coup les stocker là-dedans pour les utiliser pour mettre de l'eau dans les champs de maïs qui consomment à fond et qui servent à rien à part exporter. Voilà. Et surtout, ça vise quelques agriculteurs industriels, donc c'est vraiment une poignée. Et donc derrière, il y a plusieurs paysans, vous les appelez comme ça, agriculteurs paysans, qui disent qu'ils ne seront pas aidés en fait par ces mégabassines, qui sont contre en fait.
Ok. Ouais, il y a certains paysans qui eux n'auront plus d'eau. Alors
exactement.
Que les gros.
Il y a l'exemple d'un paysan, vraiment, j'ai plus son nom, mais qui est à côté et qui se pose la question, qui fait partie en fait. Ils ont créé une sorte de instance de dialogue dans le coin où tous ils se rassemblent. Alors je crois que c'est la coordination, je sais plus comment ça s'appelle, mais une structure qui rassemble plusieurs paysans, et l'un d'eux dit qu'en fait il veut plus en être parce que c'est simplement trusté par trois agriculteurs industriels en fait.
Okay. Voilà.
Mais on est sur une maladaptation, hein. Les mégabassines sont une réponse qui est pas du tout qui cherche à poursuivre le modèle de l'agriculture industrielle, alors qu'actuellement ce modèle est complètement remis en cause par l'urgence climatique et par les différentes le péril écologique qui est en place.
Et consommer de plus en plus de terre, de surface, en fait.
Exactement. C'est ça. Pour l'agriculture, oui, les trous. D'ailleurs, juste pour le dire par rapport au convoi de l'eau, alors on va peut-être en parler un peu plus après, mais ce qui a été drôle, c'est qu'à un moment, le convoi de l'eau a visé, en fait, est parti de Sainte-Soline pour symboliser, donc pour rappeler ce qui s'est passé à Sainte-Soline, aller jusqu'à l'agence Loire-Bretagne à Orléans. Et donc là, ils ont voulu négocier, du coup, avec la préfète qui est en charge, qui est à la tête de l'agence de l'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au moment où ils ont voulu négocier, ils ont commencé de l'autre côté des travaux par rapport à une mégabassine, la mégabassine de Brière de mémoire. Donc, on est vraiment sur un truc où on se fout de la gueule des gens. Enfin, c'est presque un piège. Enfin, ils sont vraiment...
On n'attend pas l'accord des gens.
C'est ça.
C'est ça.
Ils font dans le symbole, en plus.
C'est ça.
En plus.
À croire qu'ils veulent mettre la confrontation. C'est bizarre, je comprends pas.
pour comprendre cette histoire de bassine, donc on creuse une bassine, on donne l'impression que ça va se remplir avec de l'eau de pluie, c'est pas le cas.
Non. Ça vient de la nappe phréatique, c'est ponctionné. Enfin, il y a
un système de pompage.
C'est ça, il y a un système de pompage en tant que tel.
Mais alors pourquoi on laisse pas l'eau dans la nappe phréatique?
Parce que économiquement, c'est quand même plus intéressant. Après, les nappes phréatiques sont en danger également. Il y a de moins en moins d'eau. En fait, ils veulent stocker pour pouvoir les garder bien au frais et du coup les donner aux agriculteurs qui sont intéressés, qui ont des grands champs, compagnie. En fait, ça résonne contre l'environnement. On est sur un raisonnement purement économique, là. Faut être clair.
Il y a des problèmes d'évaporation.
Exactement. Par rapport à la mégabassine, c'est ça, pour que l'eau reste là.
L'eau elle reste
et
là.
Ils en perdent vachement dans ces mégabassines. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs expertises là-dessus qui ont été faites. Il y a beaucoup d'eau qui part. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que cette eau est également stérile et même dangereuse. Il y a possibilité d'avoir des cyanobactéries là-dedans. Donc en fait, ça bouillonne et ça va faire des trucs qui vont balancer dans les champs. C'est complètement anti-écologique et c'est complètement...
Alors qu'on pourrait laisser juste dans la terre.
C'est ça.
T'as pas de système de rotation d'eau, l'eau elle stagne.
Vraiment, hein, c'est, quand on dit c'est juste un trou avec une bâche là-dessous, c'est tout. Et justement, dans ce qu'on fait les soulèvements et bassines non merci, c'est pour protester contre ça. Ils ont fait ce qu'ils ont mis en place du désarmement, c'est-à-dire qu'ils ont percé une plastique, enfin ouais. pour que l'eau retourne en fait dans la terre, qu'elle poursuit. Enfin, je sais pas, quand on est au lycée ou au collège, on apprend ce que c'est le cycle de l'eau, quoi. On sait comment ça marche. C'est vraiment un lien, c'est important, ça irrigue toute la biodiversité. Et là, ce truc-là, il est là, et il va complètement contre ça. Et je sais pas, un collégien, un lycéen sait que c'est débile comme idée.
Mais ça fait quand même s'accaparer le.
C'est ça.
Un bien quand même, parce qu'on veut être sûr qu'il est à nous et qu'il est là, même si on en perd la moitié, c'est pas grave.
Mais il faut bien avoir conscience que c'est le premier acte d'un. d'une grande lutte qui commence et qui ne sera pas qu'en France, c'est la question de l'eau, en fait. Hein. Mm. C'est-à-dire que là, on a quand même des sécheresses un peu partout en France. Je ne sais pas, on a eu dans les Pyrénées, alors occidentales, orientales, du côté de Perpignan, ils étaient en alerte sécheresse renforcée là-bas. Nous, dans le nord, on a quand même le bassin de l'Isère, le sous-bassin de l'Isère qui était en alerte cet été. Enfin, petit à petit, on va y toucher et on va devoir, il y a un moment, en fait, ça va être encore une fois, étonnamment, les riches contre les pauvres. Donc les riches, ils vont avoir l'eau et les pauvres, bah, ils vont rien avoir.
J'ai une question sur l'eau qui est dans la nappe phréatique. Mm-hmm. Elle appartient à personne.
Alors, bonne question, ça c'est du droit, je pense. Je pense que non, elle n'appartient à personne, elle fait partie du domaine public. Alors j'avoue que je ne suis pas expert plus que...
Mais l'eau qui est dans la bassine, elle appartient à quelqu'un.
Ouais. Ouais, au groupement.
D'accord. Donc c'est ça le but, c'est de privatiser l'eau.
Ouais.
Oui.
Voilà, c'est plus clair.
Non, c'est s'accaparer un bien public.
Mais de toute façon, c'est une dynamique quand tu dis privatiser l'eau, c'est là, ça l'est. Par exemple, en ce moment, on pose beaucoup la question aussi de l'eau en bouteille. Ouais. L'eau en bouteille, c'est une privatisation. Et là, il y a de plus en plus de manifestations du côté d'Evian et compagnie, parce qu'en fait, on constate qu'il y a de moins en moins d'eau qui va pour les communes alentours, et que tout ça, c'est pompé pour alimenter Evian et trucs. Et derrière Evian et compagnie, il y a aussi des gros lobbies, j'ai Nestlé, Danone, et voilà, tout ça. Enfin, la privatisation est là. Alors après, il y a la question de défendre l'eau comme un bien partagé. Voilà, on est là-dessus, là, en plein dedans.
Alors les bassines, donc on a tous entendu parler de l'histoire de Sainte-Soline. Il y a maintenant le convoi de l'eau qui est plus ou moins organisé par les soulèvements de la terre, en tout cas. Que font les soulèvements de la terre et qu'est-ce que c'est que le convoi de l'eau qui est en train de se boucler?
Alors, le convoi de l'eau, là, il est terminé. Hein. Il a fini le 26 août de mémoire. Alors, ça a été organisé prioritairement par Bassine Lomercy, quand même. Après, les soulèvements ont pu se surajouter dessus. Voilà, après, c'est un partenariat qui est là, et depuis un moment, puisque Sainte-Soline a été organisée avec les soulèvements, également Bassine Lomercy et d'autres associations dont j'oublie. Hein, là, on va dire qu'on parle des deux associations les plus médiatiques en tant que telles, mais il y en a d'autres. Après le convoi de l'eau, qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est ce que je disais, on est parti de Sainte-Soline, c'est pour dénoncer la gestion de l'eau passée par Orléans, et notamment la question des méga-bassines, mais pas que. Donc ils sont passés à Orléans pour voir l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et ils sont allés jusqu'à Paris pour du coup faire une grande fin en fait. Alors c'était dénoncer donc la privatisation de l'eau, mais également rappeler les combats qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire que tout ça se met dans un fil historique en fait. Ils ont longé la Loire. La Loire, c'est quand même, ça a été un grand combat dans le passé contre les barrages qui cherchaient à être mis en place dans les années 70 autour de la Loire. C'est rappeler ça. Également, ça a visé à rappeler le combat contre le nucléaire. Sur le chemin, il y a eu Saint-Laurent-des-Eaux, la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Également, ce qu'il faut dire, ce qu'on tait beaucoup, c'est que les centrales nucléaires ont un effet sur l'environnement. Elles réchauffent l'eau en fait de la Loire.
Et donc,
c'est ça exactement. Et en fait, ça tue ça détruit la biodiversité.
Oui, il faut rappeler, les grandes tours qu'on voit des centrales nucléaires, ce sont des refroidisseurs.
C'est ça.
On fait circuler de l'eau dedans pour refroidir la centrale, et l'eau chaude est réinjectée
dans la rivière. Là où c'est pompé.
Et ce convoi de l'eau aussi, il faut le tracer avec les résistantes. Le grand rassemblement qu'il y a eu dans le Larzac, début août, c'est-à-dire qui était là pour rappeler ce qui s'est passé au Larzac, la lutte du Larzac, et pour également rassembler toutes les différentes luttes, et notamment il y a un rassemblement parlant de la question nucléaire et relançant, parce que je le rappelle, M. Emmanuel Macron souhaite mettre en place des petites centrales nucléaires. Enfin, il veut relancer le nucléaire, alors que bon, actuellement, il y a beaucoup de doutes sur le nucléaire. Déjà, on a l'EPR qui marche pas. Ça fout plus d'argent qu'autre chose. Ça sert à rien. Et puis, n'oublions pas que le nucléaire est quand même un danger. Faut rappeler Fukushima. Faut rappeler l'Allemagne qui a décidé d'arrêter le nucléaire après ça. Bon, après, avec les conséquences environnementales que ça. Mais voilà. Donc, c'est rappeler des choses comme ça. Le convoi de l'eau est dans ce tracé-là.
J'ai vu aussi que les convois de l'eau ont eu quelques surprises, mauvaises surprises sur leur chemin. On les aide pas beaucoup, les préfectures les sont pas toujours très sympathiques, les maires non plus, quelquefois oui.
Bon, ça c'est normal, c'est juste que ça crée du clivage.
Ouais.
En fait, les soulèvements de la terre réinjectent un nouveau militantisme, en fait, réinjectent une nouvelle force dans le militantisme, ce qui fait que, en effet, ça crispe. Et on se bat contre certains lobbying, certains politiques qui servent certains lobbies, et donc en effet, ça plaît pas. Heureusement.
C'est une forme de convergence des luttes, les soulèvements de la terre ?
C'est ce que ça veut être, oui.
C'est ce que ça veut être.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur la ZAD de la gare de Saint-Sauveur là?
D'accord, la friche Saint-Sauveur.
La friche Saint-Sauveur. Ouais, ouais. Parce que j'ai été extrêmement surprise en passant cette semaine.
Mardi matin, voilà. Mardi matin, nous allions travailler.
Où il y avait plein de camions entre 7h30 et 8h moins quart qui protégeaient les gens, qui mettaient les barrières en fait. Aucune information sur le sujet. On ne dit pas aux gens ce qui va se passer. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, c'est la petite surprise de la rentrée. Enfin, la petite surprise. Donc à la fois, bon, ça rend un peu triste. Ça rend même très en colère également. Enfin, voilà, y a un mélange. Qu'est-ce qui se passe tout simplement ? Alors, y a différents recours qui sont en cours par rapport à la question de la friche. Il faut le dire. Tout d'abord, des recours de fond. Il y a eu des recours suspensifs. Donc, c'est-à-dire que les associations, notamment ASPI et Parc Saint-Sauveur, donc ASPI, Association de lutte contre les pollutions industrielles de mémoire, ont fait des recours pour suspendre le projet de la mairie de Lille et de la MEL, qui est en fait de créer sur la friche Saint-Sauveur des logements, un parc, mais également, ce qui est le plus aberrant, une piscine olympique.
Piscine olympique, ouais.
Voilà. Donc en fait, il y a des recours. Les recours suspensifs n'ont pas été acceptés, ce qui fait que là, les travaux, en théorie, peuvent être lancés. Pourtant, il y a un recours de fond derrière qui n'a pas été encore jugé, qui peut dire en fait que ce projet n'est pas légal.
Est-ce que ça veut dire que là ils peuvent commencer les travaux quand même, d'accord.
Ouais.
C'est pour ça.
Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Ils ont décidé de faire une petite surprise. Il y avait plusieurs alertes. Donc là, ça y est, ils ont commencé à déjà ils ont. Alors les policiers sont venus, ils ont fait venir les bulldozers. Alors la friche Saint-Sauveur, il y a deux espaces. Il y a un espace qui est en fait où il y avait des personnes migrantes, des personnes qui étaient dans un état social précaire. Donc ça, ils les ont virés, ils ont détruit le village. Ils ont également envoyé, et donc en tout, alors bon, il devait y avoir 9 personnes, une femme qui était dans un état de santé extraordinaire, et lui, hommes, dont 5 qui ont été envoyés directement en centre de rétention administrative. Voilà. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Comme ça, c'est nettoyé, ça on n'en parle plus.
De façon pas visible pour les gens. Enfin, ils l'ont fait un peu sous le tapis.
Ça a été fait de façon très cachée,
on va dire.
Bah, c'est-à-dire que ça a été tué, oui. Ça a été fait pour éviter qu'il y ait trop de contestations. Clairement, bizarrement, ils visent la rentrée, le moment où on est à la braderie, où tout le monde est un peu occupé, on a tous la tête un peu ailleurs parce qu'on revient de vacances et compagnie, et bam, on nous met ça. Et donc le second truc, c'est le village à côté, le village qui était une sorte de ZAD, un peu la liberté qui était sur la friche. Il y avait des potagers, il y avait des lieux de fête, des lieux où on pouvait discuter, dialoguer, échanger, et tout ça, ça a été détruit parce que c'est un affront pour la mairie.
Ils ont tout détruit.
Et là, on se demande si, on espère, pour l'instant, ils n'ont pas touché aux arbres. Il y a des arbres qui sont quand même
des années.
Ils sont magnifiques, en effet, ouais. Et pour l'instant, ils n'ont pas touché. Alors, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que bien sûr, ils ont tout clôturé autour. Il y a des policiers qui montent la garde, il y a des maîtres chiens, on ne peut pas s'en approcher.
Pour protéger les arbres.
Oui, bien sûr, c'est ça, exactement.
C'est ça. Les grilles, c'est pour que les arbres se sauvent pas et aller s'installer des endroits où il y a besoin.
Non, mais ils vont faire une piscine, ils vont faire une bassine en fait.
Voilà.
Pour protéger tout.
Un truc stérile qui sert à rien. Ouais. Non, mais après, ce qui est important juste de rappeler par rapport à ça, c'est deux choses sur le projet de la friche Saint-Sauveur. C'est que déjà, il n'y a pas longtemps, Mediapart a quand même sorti une enquête sur la question de la chaleur dans les métropoles. Lille est quand même la deuxième métropole de France à avoir le plus de lieux de chaleur, d'îlots urbains de chaleur en fait. Et bizarrement, c'est là où il y a les pauvres, hein. C'est pas là où il y a les riches. Bon voilà. Donc Lille, on le sait tous, c'est une ville extrêmement minérale. On a très peu d'espace en fait arboré avec la biodiversité. La friche pourrait être ça. En fait, pour être un grand espace arboré, plus qu'un simple parc avec une piscine, être beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Hein. Puis de toute façon, on est dans une logique de métropolisation, c'est-à-dire que en fait, la MEL et du coup la maire Martine Aubry cherche à ce que Lille soit et une image internationale. On est sur de la pub, bon, on n'est pas sur des choses comme ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce projet est complètement débile. Et encore une fois, ça va contre en fait cette idée qu'on a besoin maintenant de plus de biodiversité, plus de nature dans nos milieux urbains.
Bon parc avec des jardins.
Voilà, c'est ça. Même des potagers, en fait, partagés. La question en fait de la nourriture en ville également, lier un nouveau lien avec la paysannerie ou l'agriculture. On est là-dessus. Hein. C'est, quand on parle de ça, on rallie les combats en fait, du convoi de l'eau, de bassines Mercier, des soulèvements de la terre. En fait, c'est simplement avoir une nouvelle approche de la nature, une nouvelle approche qu'on ne soit plus enfermé dans nos villes.
Est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'accélération, de passage en force à cause des Jeux Olympiques ?
C'est possible, en effet.
Pour les entraînements.
C'est possible. C'est possible. De toute façon, les Jeux Olympiques, ça accélère tout. Ça va être une vraie boucherie, ça aussi.
Ils auront jamais le temps de la construire pour les JO. Hein.
Non, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut au moins 3 ans hein, pour qu'ils commencent les travaux en réalité. Donc, je sais pas ce qu'ils cherchent. Je pense qu'il y a un côté un peu de nettoyer tout ça.
Dernière question avant de passer à la suite de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les semaines qui viennent? J'ai entendu parler d'un jeudi 14 octobre. D'un 14 octobre,
c'est ça.
Festif.
Alors là, on est en train de bosser, le comité local, à essayer de créer un grand rendez-vous festif rassemblant différentes luttes locales, donc notamment pourquoi pas la Friche. Ça aurait eu le 14 octobre au parc Jean Jaurès à Fâche-Tuménil. On serait sur la mise en place de tables rondes sur différents sujets, et notamment on essaie de centrer sur l'avion, la lutte contre l'avion, mais pas que, hein, essayer de faire répondre cette lutte à d'autres luttes locales, à d'autres comme la Friche Saint-Sauveur. Donc là on va créer, je vous invite à suivre la page Facebook du comité local des soulèvements de Lille, donc c'est soulèvement de la terre tiré du 6 Lille, et dessus on va mettre un événement concernant le 14 octobre avec différentes annonces. On aura repas, bars et concerts, on va essayer de faire venir des fanfares, voilà, pour essayer de lancer un peu l'année.
Bah, ça sera fait, puis on en parlera à la prochaine émission, d'ailleurs.
On refera la pub.
Trop cool. On embraye, petite pause musicale, et Los Fastidios avec la chanson Take a Stand.
We are anti-racist. To be no racist, we cannot be indifferent and silent. United in the streets, in every ground, everybody shouting loud, we are anti-racist. We are anti-racist. We'll be right back.
c'était les Fastidios, Take a Stand, face au racisme, face au sexisme, face à toutes les saloperies. Merci encore à Valentin des Soulèvements de la Terre pour cette interview. On se reverra, je pense.
Oui, merci de m'avoir invité. Hein. Et d'avoir invité le comité local.
Ouais, reste avec nous. Reste avec.
Vous en avez eu plein les oreilles. On a quasiment démonté le capitalisme à nous tout seuls. Et on va terminer l'émission avec la chronique mensuelle d'Arnaud qui nous amène tous les mois dans un monde meilleur. Je sens que ça va pas faire exception à la règle.
Ah là, t'as pas tort, Alexandre. C'est bon, c'est à moi, je peux
c'est
y aller.
C'est bon, c'est à toi.
Allez, oui. On y va. Bon, Amina, Alexandre, Valentin, Domitil et tout le public avec nous. C'est l'heure de ma chronique presque positive, spéciale braderie. Alors pour vous qui n'avez peut-être pas l'habitude de l'émission, cette année je me suis dit tiens je vais faire un truc positif pour Amina et Alexandre parce que franchement notre émission c'est quand même pas la plus drôle du monde, c'est quand même des sujets assez durs et assez, bon, pas forcément
joyeux,
drôle, on vient de le voir juste avant, mais par contre c'est quand même super.
Olé.
C'est pas grave, c'est bien.
C'était pas mal.
C'était
pour
beau,
lancer.
J'aime bien beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Eh oui, et je ai trouvé quelque chose de positif pour Amina et Alexandre, c'est quand même vraiment complexe. Donc je me suis dit, si je les vois sourire, j'entends un rire, pour moi c'est gagné. Donc ma chronique ça est juste presque positive. Allez, on y va, Alexandre. La semaine dernière, tu m'as dit, ouais Arnaud, ce serait bien de préparer un quiz pour les invités, comme ça, ça va faire bien. Eh ben Alexandre, j'ai pas fait ça.
Ça tombe bien, vas-y.
Cool. Alors invité Alexandre, je vous ai préparé un quiz. Alors ouais. C'est quand même un quiz, mais c'est un quiz spécial braderie. C'est... La réponse c'est ouais, à 10 balles à la braderie, j'achète.
D'accord.
D'accord. Okay. Donc par exemple, des avions électriques bourrés de batteries, remorqueurs d'avions de ligne électrique, qui eux sont pleins de passagers, pour remplacer la flotte mondiale d'avions d'ici à 2050... qui continue à voler pour prendre plus d'avions qu'aujourd'hui. Est-ce que vous achetez ou pas la braderie à 10 balles?
À 10 balles, non, c'est encore trop cher.
Non, c'est trop cher encore.
C'était tes avions qui chargeaient en l'air,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est mes avions qui chargent d'autres avions en charge. Donc je précise que tout ce que je vais dire, c'est des projets qui existent pour de vrai ou qui sont en projet. Donc ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, des techniciens et des financiers qui travaillent dessus. Je n'ai rien inventé, tout est vraiment... ça exige, il y a des trucs bien.
C'est sourcé.
Est-ce que c'est bien, je ne sais pas. Alors, numéro 1, une chatière intelligente. Caméra, appli pour Alexandre, détecteur de mouvement, tous les trucs de base du 21e siècle, quoi. Qui reconnaît si c'est votre chat à l'entrée ou un autre chat. Et surtout, qui n'ouvre pas la porte si le chat a une souris dans la gueule. Vous achetez à 10 euros la batterie?
Est-ce qu'il y a un poulailler connecté offert?
Je sais pas.
Je sais pas.
T'as pas de chat?
Si. Non.
Non,
ça me fait trop peur, tous les trucs connectés, ça me fait peur. Ah, moi,
c'est vachement bien. Et il y a vraiment le truc, dans les démos, tu vois le chat arriver avec la souris, ça n'ouvre pas, quoi. Ah, c'est pour éviter qu'il y ait la souris à l'intérieur de la maison.
Après, le chat va cacher la souris pour pouvoir rentrer.
C'est trop bien.
C'est le nouveau Pavlov.
Allez, le numéro 2. C'est une télé.
Ouais.
La télé, elle fait radio et vidéo call. J'ai bien dit vidéo call, Alexandre, retiens bien le truc, c'est important pour
ouais.
Toi. Adapté en son et en image avec la bonne résolution pour les personnes qui vont le regarder. Et avec des programmes spécifiquement adaptés aussi pour ces personnes. Une appli pour contrôler à distance cette télé quand toi tu n'es pas là. Elle est adaptée à qui cette télé, Alexandre?
Et au gouvernement.
Non.
Aux aveugles, peut-être?
Non.
Qui regarde la télé, j'adore.
Qui regarde la télé, merci.
Non, mais il y a des malvoyants. Non, mais je veux dire, j'ai pas aveugle, malvoyant.
On est dans le même domaine que la question d'avant.
D'accord, donc c'est pas Orwell qui est en train de...
Pour les animaux.
C'est pour les chiens.
Ah, j'allais dire pour les enfants,
c'est
moi,
pour
c'est
pour les chiens. Alors, c'est coréen. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Bah, normalement, c'est 600 USD. Mais là, pour la braderie, je vous le fais à 10 balles. Vous achetez ou pas?
Non,
toujours pas.
Putain,
vous êtes dur en affaire.
Moi, j'ai des poules. Hein, la télé, ça va pas les.
Ça va pas les.
Franchement, c'est pas.
Mais peut-être que si ton chat te ramène une poule. Non, ça va pas.
Bon, j'accélère parce que je suis à la bourre. Numéro 3. Elle est automatique. Elle a une caméra 3D, un GPS, plein de détecteurs, de l'intelligence artificielle, c'est important. Possibilité de souffler les feuilles, de mettre de l'engrais, de tondre plus de 3000 mètres carrés. Et tout ça avec une belle application de contrôle à distance, comme d'habitude. C'est la fameuse tondeuse Heisenberg Landmaster in All-in-one robot with motion AI.
Il en perd son anglais.
C'est compliqué. 10 balles à la braderie, on achète ?
Jardin,
on peut la contrôler à distance.
Oui,
on peut la contrôler à distance. Ouais.
Tu peux. Tu peux regarder.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, ça y est. Numéro 4, c'est pas acheté, c'est une expérience à vivre. Alors c'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre en début d'année. Amina, tu vas t'en rappeler.
Oui.
Pour 10 euros, prix spécial braderie, je vous propose 30 minutes de massage en solo, adapté à votre stress pour vous détendre des tensions du quotidien. Le robot IU, robot industriel, viendra vous masser délicatement. Alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, il y a une table de massage et à côté un gros robot comme dans les usines qui font les voitures. Bien entendu, tout est automatique. Vous êtes seul dans la salle pendant 30 minutes avec ce robot. Vous faites ou vous faites pas ?
Il faut rappeler qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence
juste devant le nez. Quand même,
au cas où il vous écrase le...
Je pense que si tu écrases le dos, tu es mort avant que tu aies le temps d'appuyer sur le truc. On teste ?
Non.
Non, c'est un peu flippant quand même. J'ai l'image de ces grands bras, la mécanique là, hyper Toyota. Là.
Non. Toujours pas.
J'ai trop de films d'horreur là sur les...
Oui, carrément.
Allez, mon dernier, c'est mon préféré.
Ouais.
Tu bois du café ou pas ?
Ouais.
Café ? Ouais. Amina, café ?
Oui.
Alexandre ?
Non, pas de café.
Toujours pas de café, non. C'est con. Duobo. Alors en ce moment sur Kickstarter, c'est le truc préféré d'Alexandre, c'est pour ça que j'y vais souvent pour voir les trucs bien. 200$ en ce moment sur Kickstarter, mais normalement c'est 800$ sans TVA.
Ah, ça va.
Aujourd'hui c'est 10 balles à la braderie. C'est beau, c'est design, comme d'hab il y a une appli pour gérer le truc. Pour l'appli, en fait, c'est pourquoi il y a une appli, c'est super simple, c'est que plutôt que de prendre une capsule comme d'habitude avec George, la capsule, tu sais, la bleue, la verte, tu mets dans la machine, soit la bleue, soit la verte. Et bien là, ça s'appelle Duobo. Pourquoi Duobo ?
Parce que tu cliques sur ton téléphone et lui cliquer sur la machine.
Non, c'est pas ça. Tu vas créer ton café personnalisé. Tu vas sélectionner les températures de chauffe, les pourcentages d'extraction de la dosette. Car oui, Duobo n'extrait pas le café d'une dosette, mais bien de deux. En même temps, Alexandre.
Duobo.
Alors en fait, je vais l'acheter à 10 balles parce que ça fait... Depuis tout petit que mon père demande dans tous les restos où il va, parce que ça le fait marrer, un café 50% arabica des hauts plateaux d'Éthiopie et 50% je sais pas quoi, Colombie, gna gna gna. Cadeau pour mon père, direct.
Et bah là c'est encore mieux, c'est tu peux mettre 30% à telle température d'un, puis 20% à telle température de l'autre, puis 10% à telle température de l'autre. Créer ton café, Alexandre.
Du coup, c'est trop compliqué pour mon père.
C'est trop compliqué. Ah merde. Pourtant, il y a l'appli, tu peux lui paramétrer. Ça
pas il faut que je paramètre son appli.
C'est bon. Ça va. Alors, on achète ou c'est bon ou pas ?
10 euros à la braderie.
10 euros à la braderie.
Ouais.
C'est beau en plus.
Ça, franchement, j'ai un peu peur en fait. Moi, le café, c'est assez simple. C'est une cafetière italienne et puis basta quoi.
Voilà. Ouais. T'imagines le cahier d'expérience qu'il faut tester les températures.
Trop de complexité, ça fait mal à la tête à un moment.
Mais c'est celui-là, je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est pour Alex. Ah mais oui, après, je me suis dit merde, il faut pas de café.
Ouais. T'as le même pour le cacao ?
Je sais pas.
C'est dosettes de cacao.
Bon, voilà, j'ai terminé. Vivement la prochaine émission pour que, voir si finalement j'arrive à faire quelque chose de vraiment, vraiment positif pour Alexandre et Amina.
On verra ça.
On verra à la prochaine émission.
Il y a septembre à faire d'abord.
Nous
arrivons à terme de l'émission des minutes de la fin du monde de la braderie de Lille. Je voudrais commencer par remercier nos invités du jour, Valentin des Soulèvements de la Terre,
merci.
Qui a beaucoup parlé et qui a plein de choses intéressantes
c'est
à nous dire. Et Domitil de Mu qui a beaucoup écouté.
Tout à fait, qui a plein de choses intéressantes à écouter.
Mais on te reverra une autre fois aussi. Merci à vous, peuple des bras d'eux. Merci de nous avoir suivis dans les minutes de la fin du monde, l'émission de Radio Campus consacrée à l'écologie et à l'environnement. On se retrouve habituellement le troisième mercredi de chaque mois de midi à 13h pour une heure de plaisir où nous rions ensemble de la tartufferie des défenseurs immaculés du développement durable. Où nous pleurons ensemble de la violence du monde, où nous dénonçons l'imposture du capitalisme vert assis bien au chaud depuis notre petit studio de Radio Campus Lille, 106.6 FM, en direct sur internet campuslille.com et sur le DAB+, et en direct de la braderie de Lille. Merci à vous, les gauchias, islamo-féministes et écolo-feignas. Merci Arnaud, Amina, Nadia qui n'est pas là aujourd'hui, Radio Campus, toute l'équipe, tout le monde, de nous faire confiance. Marie, Seb, Patricia, Gros Dada, tout le monde qui est là. Marcel, voilà. Je t'ai remercié, je t'ai pas mis dans la liste.
Marcel, ah bah oui.
Pour la technique de notre première émission en direct. Merci à tous.
La suite de la prog, c'est Doc Map, d'après le document que j'ai, qui va vous enjaser jusqu'à 14h, puis ce sera 2h du foutu mélange de Radio Campus.
Merci.
Et je laisse le micro.
Merci, merci Alexandre, tous. Merci à tous.
En direct de la Braderie de Lille jusqu'à 21h aujourd'hui et puis jusqu'à 17h demain. Tout à l'heure, il y aura le foutu mélange de 14 à 16. Bien sûr, ils l'ont dit, les minutes de la fin du monde. Et puis, on retrouvera une émission de rap de 16 à 18. Et on va attendre que l'émission de jazz se prépare. Ça sera de 13h à 14h. Mais pour l'heure, bonjour Petrouchka, bonjour Marcel.
Bonjour.
Petrouchka, t'étais un peu nerveuse de la météo, c'est ça? T'as envie d'en dire quelque chose?
Oui, je voulais parler de la météo. Les conditions météo sont plutôt favorables. C'est si vrai. La journée de vendredi a été particulièrement maussade, tout s'arrange ce week-end du 2 et 3 septembre. Le soleil fera des apparitions timides dans un premier temps, puis sa présence se fera bien sentir pour le reste de la journée. Il va faire bon, ni trop chaud, ni trop froid. Dimanche 3 septembre, le soleil sera de la partie. L'après-midi, de belles éclaircies vous permettront de chiner sous 25 degrés. Voilà donc des conditions météo qui vont vous donner envie de passer un bon moment à Lille. Nous vous souhaitons un excellent week-end de braderie et où que vous soyez, merci d'écouter Radio Campus en direct de la braderie de Lille ce samedi jusqu'à 21h pardon, et dimanche de 10h à 17h, porte de Paris à Lille et sur le 106,6 de la bande FM.
Bah oui, c'est vrai qu'une émission, enfin une radio, une station de radio qui a le talent du bulletin météorologique comme ça, ça fait sérieux. On est sérieux ici sérieux. Cette braderie jusqu'à 21h. On reçoit jusqu'à 13h05 à peu près, on reçoit la Fédération du Réemploi. Alors,
et de la Réparation.
Et de la Réparation avec Aziz Aïch qui est avec nous, et R-Cube, c'est ça, et Najib Renaï.
Renaï. Oui.
Et juste après eux, on reçoit bien sûr William Roger de la CGT qui va nous parler de la grève des salariés d'Emmaüs, hein, voilà, simplement, ce sera dans quelques instants. Tout de suite, la Fédération du Réemploi.
Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que R-Cube? Quelles sont vos missions et pourquoi vous êtes là aujourd'hui à la braderie?
Tu commences, Najib? Ouais,
bonjour, merci de l'opportunité que vous nous donnez. Donc, R-Cube, c'est la Fédération du Réemploi et de la Réparation. C'est une association, loi 1901, donc on est sous statut, on y tient beaucoup. Donc on est une structure en fait qui accompagne différents types de structures, des associations, des porteurs de projets, des startups, des TPE, des PME et aussi maintenant des grands groupes.
Oui.
Pour circulariser les activités de ces 10 structures.
D'accord.
Donc nous on a 5 grandes missions dans la fédération. La première c'est d'animer l'écosystème d'entreprises et d'associations.
Oui.
La deuxième c'est d'accompagner l'innovation.
Oui.
On a lancé un programme d'accompagnement à destination de start-up. Nous on travaille aussi beaucoup et c'est le nerf de la guerre de notre fédération, c'est l'allongement de la durée de vie des produits. Parce que nous on est bien évidemment anti-gaspillage, je ne l'ai pas rappelé au début, mais R-Cube c'est R au cube pour réemploi, réutilisation et réparation. Donc voilà, historiquement on travaille à allonger la durée de vie des produits et on travaille beaucoup sur la qualité des produits. Et pour ce faire, on a créé un schéma de reconnaissance des bonnes pratiques du secteur,
oui,
qui est un label qui vient en fait certifier la qualité des produits qui sont remis sur le marché et recommercialisés. Donc ça, c'est un peu les grandes missions de notre fédération. Et bien évidemment, faire de la sensibilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. On est très fiers d'inaugurer ce partenariat avec la mairie de Lille, parce que notre fédération, qui est une fédération nationale, lance sa première antenne régionale dans les Hauts-de-France, et qui va s'appeler R-Cube Hauts-de-France.
Et c'est Aziz Aïch qui va gérer l'antenne de Lille, c'est ça ?
Oui, donc je vais avoir l'extrême honneur effectivement d'animer cette antenne. Donc alors pour votre information, moi je suis natif d'ici, donc je suis un ch'ti, un pur et dur, donc voilà. Et ravi d'être parmi vous. Donc nous sommes organisés effectivement pour donner les moyens aux acteurs du réemploi donc de grandir et de s'affirmer. Sachez que pour ma part, je suis un acteur de réemploi puisque j'ai créé ma propre start-up qui s'appelle Be My Phone, voilà, donc qui met en relation donc les particuliers pour échanger, vendre leur smartphone. Et puis bien entendu, comme c'est un produit hyper sensible, donc tous les produits passent par Be My Phone avant d'arriver donc à l'acheteur final. Voilà, donc concernant AirCube, l'antenne, donc le lancement de l'antenne officielle au sein de la mairie, voilà, dans les